Alors ce soir, nous allons continuer avec Corinthiens. Nous sommes rendus au chapitre 7 de cette épître. Et je vais commencer par d'abord une petite introduction. C'est compte tenu de la nature du sujet que nous abordons ce soir, un sujet qu'on va qualifier de chaud, un sujet qui fait l'objet de beaucoup de tiraillements et on se tire dessus dans tous les sens. Vous allez comprendre pourquoi. Je vais débuter par une petite introduction, peut-être qui place un peu le contexte pour dire que la première épître de Paul aux Corinthiens est une épître particulière parce qu'elle traite vraiment des aspects sociaux. C'est une application sociale dans ce que les gens vivent, une application sociale de l'œuvre de la croix. C'est la première chose que je veux dire. Vraiment, ça touche les aspects sociaux, le vécu quotidien de chaque personne. Et c'est bon parce que ça vient nous chercher là-dedans et ça nous amène à des questionnements, ça nous amène à beaucoup d'interrogations. La deuxième chose que je veux dire ce soir, c'est qu'au début de cette étude, je ne sais plus à quel moment, mais sans doute dans l'introduction de la première épître aux Corinthiens, j'avais dit qu'elle renseignait d'abord et avant tout sur la vie et les problèmes de l'église de Corinthe. C'est une épître circonstancielle qui a été écrite adressant les problèmes de l'église de Corinthe. Une église qui a créé beaucoup de problèmes à Paul, plus que toutes les autres églises. Il a eu du fil à retordre avec l'église de Corinthe. Mais on le voit, pareil, continuer à aimer ces gens de Corinthe. On le voit, pareil, continuer à s'attacher. Comme les parents s'attachent à leurs enfants terribles, à leurs enfants difficiles. On ne les abandonne pas, on ne les lâche pas pour autant parce qu'ils sont difficiles. On les aime et on veut leur donner le meilleur. On veut leur donner ce qu'on pense qui est bon pour eux. C'est vrai donc que l'épître a été écrite dans des circonstances bien précise, des gens de Corinthe étaient donc destinés à répondre aux questions qui se posaient à ce moment-là aux gens de l'église de Corinthe. Et nous l'avons vu, qu'il y a des gens, des Fortunas, j'ai plus les noms, là les trois personnes, qui étaient partis pour aller voir Paul avec les questions des lettres, avec des questions que les gens se posaient. Voici ce que nous vivons de difficile au sein de l'église de Corinthe. Peux-tu nous apporter des réponses là-dessus? Donc, l'épître est d'abord et avant tout une réponse aux questions que les gens de Corinthe se posaient. Mais c'est une épître, évidemment, qui renferme pas mal d'enseignements qui sont applicables à notre temps. C'est évident. Et c'est ça, d'où l'intérêt d'aller chercher ce qui est applicable à notre temps pour en tirer le meilleur profit aussi. Ce n'est pas un enseignement qui était destiné aux gens de Corinthe et puis on ferme le livre, on n'en parle plus. Aujourd'hui aussi, on peut en tirer des enseignements. Je dis ça pourquoi ? Je dis ça pour montrer simplement que l'exposé que Paul fait là-dedans, ce n'est pas un exposé doctrinal, comme nous avons vu quand on a étudié l'épître de Paul aux Romains. Là, c'était doctrinal. Il posait des fondements. Ici, il répond aux questions. L'approche est complètement différente. Donc, ce n'est pas un traité sur le mariage que Paul a écrit. Et Paul a répondu aux questions par rapport aux situations qu'il vivait à l'époque dans l'église de Corinthe. Ceci dit, ça va peut-être nous aider de mieux aller plus loin dans notre étude. Et je voudrais vous dire que j'ai fouillé, j'ai lu, j'ai interrogé et j'ai pris un livre d'un auteur du siècle dernier, je pense, Frédéric Godet, qui est un bon interprète, un bon commentateur de l'épître de Paul. J'ai un livre que j'ai pris chez mon pasteur. Sur les commentaires de la première épître, c'est un livre de 300 pages à peu près. Donc détaillé, il va dans les détails. Alors j'ai lu là-dedans. Et il y a un extrait que je vais juste vous lire de ce texte. Frédéric Godet, donc dans ses commentaires sur la première épître de Paul aux Corinthiens, dit ceci, il dit « Paul avait besoin de toute la sagesse, j'ai souligné ça, de toute la sagesse que Dieu lui avait accordée et en lui conférant sa mission. » Sa mission, selon Romains 12, 3, c'est ceci, il dit « Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion. » Il se met dans ce cas, pas une trop haute opinion de soi-même, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Donc il dit ceci, Godet, Frédéric Godet. Donc Paul avait besoin de toute la sagesse que Dieu lui avait accordée en lui conférant sa mission, et il avait besoin aussi de toute la souplesse naturelle de son intelligence. Amen. Donc, il se sert de la sagesse que Dieu lui donne. Il se sert aussi de la souplesse naturelle de son intelligence pour résoudre sans compromettre l'avenir des individus et sans compromettre l'avenir de l'Église. Donc, pour résoudre les questions qui lui étaient posées. Voici le commentaire que fait Frédéric Godet. Ça nous aide à comprendre qu'il s'est servi de la sagesse venant d'en haut, mais il s'est servi de son intelligence, la souplesse naturelle de son intelligence. Il n'est pas rigide dans ce qu'il fait. Il se sert de la souplesse naturelle, de son intelligence. Nous avons une intelligence, nous aussi. Dieu nous a donné, mais nous avons aussi la sagesse d'en haut. Les deux mis ensemble nous permettent d'avancer, d'aller plus loin dans l'étude et dans l'approfondissement de la parole de Dieu. Amen. Ce que je veux dire avant de passer plus loin, c'est aussi que Paul n'est pas ce genre de théoricien que l'on peut appeler des théoriciens de chambre. C'est un homme de terrain. C'est un homme qui parle à partir des réalités vécues et en se basant sur ce qu'il y a d'écrit et de posé comme fondement dans la parole de Dieu. Et il faut concilier les deux choses. Il n'est pas un théoricien de chambre. Il n'est pas le grand théoricien qui se met dans le coin et il sort des théories. Il y a un temps où il le fait. Quand il pose une doctrine sur le salut, c'est sur base de la révélation qu'il a reçue de Dieu. Ça n'a rien à voir avec le vécu quotidien des gens. Mais il y a un temps où il parle des choses de vécu de chaque jour. Et là, il concilie les deux. L'intelligence, la sagesse venant d'en haut et de son intelligence pour mener l'Église plus loin. Plus loin, sans compromettre la vie des individus, l'avenir des individus et l'avenir de l'Église. Alors, quand on lit la parole de Dieu, à partir de ce que je viens de dire, on doit savoir, c'est vrai que toute écriture est inspirée de Dieu. Et dans l'écriture, il y a la lettre, mais il y a l'esprit. Les deux doivent aller ensemble. On ne peut pas juste prendre la lettre. On ne peut pas juste se contenter d'un verset, on le prend, on dit, il est écrit. Non, il y a la lettre et il y a l'esprit. Première chose. Alors, la vérité, la vraie vérité va être donc dans la façon de lire cette parole, en sachant que la lettre tue et l'esprit vivifie. Si on lit l'Ancien Testament avec une optique messianique, la Bible dit souvent que les choses de l'Ancien Testament ont été écrites comme l'ombre des choses à venir. Mais si tu ne vois pas qu'il y a des choses à venir, que tu le lis juste dans l'optique de l'Ancien Testament, tu ne gagnes rien, tu es dans la loi, point et point, c'est tout. Quand on lit l'Ancien Testament dans une optique messianique, en sachant que ça annonce des choses qui vont venir, on est en train de lire le Nouveau Testament. Amen. On est en train de lire le Nouveau Testament. Si on lit les évangiles, les épîtres, etc., avec un cœur de scribes et de pharisiens qui cherchaient à tendre des pièges à Dieu sur chaque passage qu'il dit à Jésus, je veux dire, c'est ça. Ça veut dire qu'on est tout simplement en train de lire l'Ancien Testament. Pas différent. C'est-à-dire la loi, c'est-à-dire une lettre morte. Il n'y a pas l'Esprit de Dieu là-dedans. Alors, ceci dit, je vais vous proposer donc qu'on étudie le chapitre 7 en trois temps. Je voudrais commencer ce soir par les 11 premiers versets. Ça va être court, mais je vais essayer maintenant d'élaborer sur la question du divorce et du remariage. Ici, nous commentons les versets, mais je vais m'arrêter là-bas pour aller vraiment élaborer sur la question du divorce et du remariage en vertu de tout ce que dit la Bible, parcourir de l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament. Ça va nous donner une meilleure vue. J'ai aimé, je disais ça à notre sœur, qui aime tellement décortiquer la parole, mais elle m'a écrit quelque chose, et moi-même j'ai appris, et sur quel je crois. Tu ne peux pas prendre un verset et baser toute une doctrine ou une théorie là-dessus. Il faut le mettre dans le contexte, il faut le mettre par rapport à l'ensemble de la parole de Dieu. Beaucoup de choses ont créé des sectes, des divisions, des problèmes, parce que les gens se sont bombardés des versets. Tac, il est écrit. Il faut le mettre dans le contexte, il faut le mettre par rapport à d'autres passages. Laissez-moi vous dire qu'il y a beaucoup de textes. Je ne sais pas si certains ont déjà vu ça, il y a des encyclopédies, ce qu'on appelle des difficultés de la Bible, qui ont été écrites par Alfred Kuhn, etc. C'est des gros livres comme ça. Où il prend un verset, il le compare à un autre, il dit que ça pose problème, ou ceci, cela, etc. Il essaie de trouver, dégager de là une explication. Donc ça veut dire que la Bible, quand je dis que la Bible n'est pas limpide et claire à la lecture comme ça, il y a des études qui doivent être faites. C'est ce qui explique qu'il y a eu des divisions à l'époque. Quand les gens se sont opposés à ce que l'Église catholique prônait comme doctrine, c'est parce qu'ils n'étaient pas d'accord avec l'interprétation qu'on faisait des mêmes versets de la Bible. On ne les a pas changés, les versets sont les mêmes. L'Église catholique les interprète comme ceci, et d'autres théologiens les interprètent comme cela. On a comme les Calvins, les Luther, etc. Mais même eux, ils disent des choses avec lesquelles on n'est pas d'accord avec tout ce qu'ils disent. Lui appuie le baptême des enfants, exactement comme l'Église catholique. C'est Calvin, c'est le maître à penser du mouvement actuel. Luther lui-même, il dit des choses avec lesquelles aujourd'hui on n'est pas d'accord. Pour vous montrer jusqu'où ça va aller. Regardez, prenez des livres, vous allez tomber sur des commentaires qui se contredisent, des théologiens. Il faut savoir qui on lit, qui on ne lit pas, en quoi on croit, en quoi on ne croit pas. C'est pour ça qu'il y a des mouvements d'église. Les pentecôtistes croient ceci, les baptistes croient cela. Il y a des choses sur lesquelles nous nous rencontrons, il y a des choses sur lesquelles nous ne nous rencontrons pas. Alors, il faut tenir compte de tout cela. Donc, je vais aller par des blocs de deux versets, ça va être plus facile. Paul dit ceci au chapitre 7, les deux premiers versets. « Pour ce qui concerne les choses au sujet desquelles vous m'avez écrit, je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher de femme. Toutefois, pour éviter la débauche, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. » Déjà, la manière dont ça commence, ça vous montre qu'il est en train de répondre « pour ce qui concerne les questions que vous m'avez posées, donc les choses au sujet desquelles vous m'avez écrit, il répond aux questions. Il commence par répondre aux questions. Alors, Paul donc répond aux questions, des questions que nous, on ne connaît pas. Pour savoir apprécier une réponse que l'on donne à une question, il vaut mieux savoir quelle est la formulation de la question. Qui la connaît? Personne ne connaît pas la question. Donc, il répond aux questions qu'on ne connaît pas, d'où la difficulté de comprendre certaines réponses qu'il donne. La deuxième chose qu'il y a ici, c'est qu'il y avait des divisions dans l'Église au sujet du mariage, au sujet du célibat. C'est soit à cause de la situation propre que vivait lui-même Paul. Il y a des gens qui étaient d'accord avec ça. Il y a des gens qui n'étaient pas d'accord avec le célibat qu'il menait. Il y avait des groupes qui se divisaient là-dessus. Et n'étant pas marié, lui, il n'était pas marié au moment d'écrire l'épître. En tout cas, il n'avait pas de femme au moment où il écrit l'épître. Là. Mais on peut croire qu'il l'a été auparavant. Paul a été marié auparavant. Qu'est-ce qui lui est arrivé? A-t-il perdu sa femme? Certains disent oui, d'autres disent non. Et vous allez voir pourquoi. D'autres disent non, il ne peut pas avoir perdu la femme parce qu'il dit quelque part, il dit, je voudrais que tout le monde reste comme moi. Va-t-il souhaiter que tout le monde soit veuf comme lui? Non. On pense qu'il a vécu avec une femme, il a peut-être quitté au moment de sa conversion, quand il s'est converti au Seigneur. D'autres vont dire qu'il est mort, mais qui en a la preuve? Il n'y a personne qui en a la preuve. Mais on croit qu'il était marié, pourquoi? Parce que pour être membre de cette cour de l'époque, le Sanhédrin juif, il fallait être une personne mariée. Lui, il était membre du Sanhédrin, donc il était marié. Première chose, des divisions sur son statut. Mais rien ne nous dit qu'il était veuf, rien. Et on pense plutôt que non, en tout cas il n'était pas. Mais il n'y a pas d'avis unanime des commentateurs. Allons-nous nous tirer dessus à cause de ça? Ce n'est pas essentiel. Mais il y a des gens qui se tirent dessus à cause de ça. Les uns disent qu'il est veuf. Non. C'est pas important. Là. Il y avait aussi des divisions à l'époque à Corinthe à cause de l'influence, nous l'avons dit au début, de la philosophie grecque qui, pour elle, le corps, tout ce qui est corps, c'était une matière qui n'avait pas beaucoup de valeur et qui n'envisageait le mariage comme un état vulgaire. C'était vulgaire, c'était contraire à ce qu'on peut appeler l'indépendance de l'homme. L'homme devait être indépendant, il n'y a pas question de se lier à travers un mariage. Donc, discussion autour de ça. On est en train de nier ici les choses fondamentales que Dieu a voulu dès le départ quand il a créé l'homme et la femme. Il y avait des divisions là-dessus. Il y avait aussi des divisions à cause, et nous l'avons dit, que la ville de Corinthe, c'était un centre où il y avait toutes sortes de promiscuité des gens, beaucoup de mœurs légères. Comme tous les grands centres de l'époque, il y avait des gens venant de partout et il y avait beaucoup de mœurs légères. Donc, il y avait des divisions à cause de la licence des mœurs. Tout était permis. Il y avait beaucoup de prostituées. Il y avait même un temple, on a dit, où les prostituées allaient passer. C'est quelque chose. Donc, la licence des mœurs qui régnait à Corinthe également. Et nous pensons qu'il y avait aussi des divisions parce que beaucoup de commentaires disent qu'à cette époque, les gens pensaient que la fin du monde était à venir, qu'ils allaient voir le retour de Jésus-Christ de leur vivant, d'où ils pressaient les gens à se convertir, etc., etc. Donc, il y avait également des divisions là-dessus à cause de ces perspectives des temps difficiles. On pourra le voir au verset 26, on le dit d'ailleurs au verset 26, il dit « Voici donc ce que j'estime bon à cause des temps difficiles qui s'approchent. » Comme ils s'attendaient à des persécutions de la part des Romains, etc. Donc, il y a des attitudes qu'ils adoptaient pour dire « Non, il vaut mieux être dans une position de célibat plutôt que dans une position de marié. On peut peut-être mieux résister, on peut peut-être mieux se sortir d'affaires. » Voici des éléments qui faisaient la division. En définitive, dans ces deux premiers versets, Paul est en train d'évoquer la valeur du célibat. Il dit « Le célibat, c'est bon. » Mais ça ne veut pas dire qu'il critique
nulle part, ni il déprécie le mariage. Il montre, il est dedans, il voit que lui, ça lui permet de mieux servir. Il est libre de toute autre obligation et ça lui permet de mieux servir le Seigneur. Mais Paul, en disant ça, ayant été marié, connaissait les besoins naturels de l'homme. Que tous les hommes ont. Il connaissait ce besoin naturel d'avoir une femme. Selon Genèse 2, Genèse 2, 18 le dit, l'Éternel Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. » Dieu qui connaît tout sait qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Pourtant, il l'avait mis dans un jardin où il y avait tout ce qu'il voulait avoir. Il était dans un jardin où il y avait tout ce qu'il pouvait avoir. Mais Dieu savait que l'homme avait besoin de compagnie. Dieu savait que l'homme aurait du mal à supporter l'horreur de la solitude. Il lui a créé une femme. Ça veut dire que la volonté de Dieu au départ, c'est que l'homme et la femme soient mariés. La volonté de Dieu au départ. Que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Ça nous montre encore un autre aspect de la monogamie. Dieu dit que chacun ait une ou des femmes, non ? Ou qu'une femme ait plusieurs maris, il dit c'est la monogamie qui est prônée dès le départ. Donc, Paul connaissait bien les besoins naturels qu'ont les hommes. Simplement, si Paul a écrit ça dans les deux premiers versets, c'était pour protester contre les exagérations de ces ascétiques, les gens qui sont des ascétiques, des gens qui se donnent une discipline de vie dure, etc., hein, pour obtenir un niveau de spiritualité élevée. Vous savez qu'il y a des gens qui sont comme ça. Ils se font souffrir en se disant que nous allons être élevés dans... Lui, il voulait s'opposer à ces exagérations. C'est des choses comme ça qui amènent des sectes. Et donc, Paul, en écrivant ça dans les deux premiers versets, c'est juste pour dire que le célibat, il est bon, mais le mariage a sa part. C'est la volonté de Dieu dès le départ. Amen. On a clarifié les choses. Le verset 3 à 5, maintenant. Que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit et que la femme agissent de même envers son mari. Ce n'est pas la femme qui dispose de son corps, c'est son mari. De même, ce n'est pas le mari qui dispose de son corps, c'est sa femme. Ne vous privez point l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord, pour un temps, afin de vaquer à la prière, puis retournez ensemble, de peur que Satan ne vous tente en raison de votre manque de maîtrise. À cause de votre manque de maîtrise. Ce que Paul veut dire, c'est que pour que le mariage réponde au but de Dieu, il faut vivre de manière conforme à la nature que Dieu a faite de l'homme et de la femme. C'est une nature d'êtres qui ont des plaisirs sexuels et c'est bénissant quand ça se fait dans le cadre du mariage. C'était la volonté de Dieu. Ce n'est pas par accident les relations sexuelles dans un mariage, c'était dans la volonté de Dieu. Qui par la suite amène la procréation, mais c'était pour le bien-être du couple. Donc Dieu ne veut pas que les hommes vivent comme des animaux. Tu cours à gauche, tu trouves une femelle, tu vas à droite, tu trouves une femelle. Non, Dieu ne veut pas ça. L'on vive comme des animaux, mais que chaque homme ait une compagne, chaque compagne puisse avoir son mari tous les jours de sa vie. La volonté de Dieu. Sans autre condition, sans autre exception, c'est la volonté de Dieu. Alors l'homme est fait pour la femme, c'est ce que Paul dit. L'homme est fait pour la femme. Et vice-versa. Ça veut dire qu'il n'a pas le droit, c'est ce qu'il dit, il n'a pas le droit de se priver de l'autre. Ton corps ne t'appartient pas, toi, homme, ton corps ne t'appartient pas, toi, femme. Il dit que ton corps appartient à ton mari, ton corps appartient à ton épouse. Voici ce que la parole nous dit. Donc, vous n'avez pas le droit de vous priver l'un de l'autre, sauf d'un commun accord. Et pas pour n'importe quelle raison. Pas pour n'importe quelle raison. C'est pour vaquer à la prière, pour vaquer à la prière. Et puis, même quand vous l'avez fait, il dit que c'est pour un temps. Vaquer à la prière pour un temps. Il ne faut pas vous engager, dites toute la vie, nous allons nous mettre en prière et on oublie les devoirs maritaux. Il y a des gens qui sont tombés dans ce piège. Les sectes sont tombés dans ce piège. Nous allons voir que c'est à la base de beaucoup de dislocations de mariage et de beaucoup de déviations qu'il y a eu à l'époque. L'homme est fait pour la femme et vice-versa. On n'a pas le droit de se priver l'un de l'autre. Si je m'arrête ici, et que vous savez comme moi ce qui se passe dans beaucoup de couples chrétiens. Vous le savez, comme moi. Il y a beaucoup de gens qui sont ensemble, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 25 ans, mais qui font chambre à part. Aux yeux des chrétiens, aux yeux du monde, ils sont mariés. Ils ne le sont pas. Parce qu'ils ne répondent pas aux exigences du mariage. Est-ce qu'ils ont décidé de se mettre chambre à part parce que ils l'ont voulu pour le plaisir, qu'il y a eu un problème à un moment donné. Ils ne sont pas parvenus à se mettre d'accord. Pour les yeux de la société, pour être bien vus, pour qu'on ne soit pas pointé du doigt, dire ils ont divorcé, ils ont fait ceci, on reste ensemble. Mais on la boucle. Mais on ne vit plus le mariage. On ne vit plus le mariage. Un mariage, c'est une union où on répond complètement à ce que Dieu attend de l'homme et de la femme. Il y a des devoirs maritaux qu'il faut faire. Ça doit être fait. Et si ce n'est pas fait, il y a quelque chose qui manque dans ce contrat, qui enlève peut-être la validité de ce mariage. Vous faites chambre à part depuis 15 ans, 20 ans, 25 ans. Vous venez à l'église, ils sont mariés. C'est possible d'être marié 40 ans. C'est possible d'être marié 50 ans. Vous faites chambre à part. Dieu voit. Là où les autres ne voient pas, Dieu voit. Et vous qui faites chambre à part, vous allez être les premiers à dire, lui, il a commis l'adultère. Lui, il s'est remarié. Lui, il a divorcé. Pensez-vous que c'est une union? Il n'y a pas d'union là-bas. On ne répond pas aux critères de base. Donc dans le mariage, chaque partie prenante s'aliène, se prive de ses devoirs sur son corps, s'aliène, il perd quelque chose. Et il faut que tu perdes quelque chose de ton indépendance pour pouvoir rencontrer les besoins de l'autre. Vous devez être complémentaire. Ce n'est pas juste sur le plan sexuel, c'est sur tous les plans. Un mariage, c'est un lieu où on se complète l'un l'autre. Quand l'un est faible, l'autre le relève. Quand l'un ne sait pas, l'autre sait. On se complète pour faire un, pas juste au niveau sexuel. Ce qui se passe dans beaucoup de couples qui se disent chrétiens n'a rien de chrétien. N'a rien, c'est de l'apparence. C'est de l'apparence. Et ça, ça fait bien. On est dans l'église, tout va bien. On est dans l'église. Nous, les autres, là, on tire dessus. La boule est rouge, on tire dessus. On tire dessus. On tire dessus. Mais si, j'ai dit toujours, si Dieu pouvait ouvrir les yeux un jour dans l'église et montrer ce que nous sommes tous dans nos cœurs, nous fuirions par la porte. Nous ne saurions même pas par où sortir. La séparation, c'est pour un temps limité. Parce que Paul sait de quoi il parle déjà et a déjà été marié lui-même. Ça doit être pour un temps limité. Il met des restrictions pour un temps limité parce qu'il a une double crainte. La crainte de l'incontinence naturelle. On est sexuel, on est comme des animaux, je ne sais pas comment je vais dire ça, des êtres, pas des animaux, des êtres sexuels créés pour... Donc, il y a l'incontinence naturelle qui peut nous faire chuter, c'est ce qui fait peur à Paul. Il y a aussi l'action de Satan qui va attiser les convoitises de la chair. Il ne peut pas vous laisser tranquille. L'action de Satan qui va attiser les convoitises charnelles et qui va provoquer des chutes à la moindre occasion. Alors il dit, prenez vos dispositions. Même si des fois vous avez décidé de le faire pour une semaine, 3 jours, je ne sais pas quoi, que vous sentez que ça ne va plus, revenez ensemble pour ne pas donner accès à l'ennemi. Si vous vous entêtez, vous allez chuter. Vous allez chuter. Et nous allons voir que l'adultère, ce n'est pas seulement sortir du toit conjugal pour aller prendre une femme à l'extérieur. Et à l'adultère, c'est Jésus lui-même qui le dit. Dans la tête, tu as déjà commis l'adultère à cause des pensées que tu as. D'autres vont aller assouvir leur soif à la télévision, dans Internet, ils se disent qu'ils n'ont pas péché. C'est de l'adultère, l'incontinence, l'action de Satan. Il est présent. Il nous guette, il nous cherche par tous les moyens. Ne donnez pas accès à l'ennemi. Ne donnez pas accès à l'ennemi. Amen. Versets 6 à 7. Dit, je dis cela par condescendance, je n'en fais pas un ordre. Je dis cela quoi? Le conseil qu'il donne. Je ne dis pas parce que je vais vous l'imposer, ce n'est pas un ordre. Je ne fais pas ça d'un ordre, je ne le fais pas par condescendance, ce n'est pas un commandement. Mais je le fais, je concède à cela. Je ne le fais pas par condescendance, je n'en fais pas un ordre parce qu'il ne l'a pas reçu du Seigneur. Ce n'est pas une loi, c'est un conseil qu'il donne. Il dit, je voudrais que tous les hommes soient comme moi. C'est ça que je vous disais tout à l'heure. Supposons qu'il était veuf, est-ce qu'il voudrait que tous les hommes soient veufs? Non, ce n'est pas ça. Donc, je voudrais que tous les hommes soient comme moi, sans doute célibataire, je veux dire célibataire, mais ex-marié, parce qu'il l'a été de toute façon pour pouvoir siéger au Sanhédrin. Il dit, mais que chacun tient de Dieu un don particulier, l'un d'une manière, l'autre d'une autre manière. L'un pour le célibat, l'autre pour le mariage. On ne se lève pas le matin si cela ne vient de Dieu, de dire, moi, j'opte pour le célibat. Je vais demander à Dieu de m'aider. Est-ce que c'est un don que tu as reçu? C'est un don que Dieu donne à qui il veut. L'un pour le célibat, l'autre pour le mariage. Donc, Paul ne fait pas de ce principe-là un ordre ou un commandement. C'est un simple conseil qu'il donne. Il dit, les gens peuvent se priver plus longtemps. Vous pouvez le faire si vous êtes capable. Vous pouvez le faire plus longtemps. Toutefois, il faut que ce soit de commun accord. Et quand l'un refuse de se donner à l'autre. Voilà ce qui est à la base, comme je disais, de beaucoup de cas d'adultère. Tu pousses l'autre à la rue. Tu ne vois pas, tu es égoïste. Tu m'as fait marcher, je vais te faire marcher de ce côté-là. Tu le pousses à la rue. Tu le pousses de la première femme qu'il croise, il tombe dessus. Beaucoup de cas d'adultère et de mariage ont été brisés avec ça. Donc quand il dit comme moi, c'est-à-dire vivant seul. Je ne vais même pas dire célibataire. Oui, célibataire, parce qu'il vit seul simplement, mais avec toute sa liberté et puis toute son indépendance de servir Christ. Lui dit, ça me fait du bien d'être seul aujourd'hui. Ça me permet de répondre à mon appel beaucoup plus facilement que si j'étais marié. Alors, celui qui le peut le faire comme moi. Mais il faut que ce soit un don. Il faut que ce soit un don reçu de Dieu. Amen. Il appelle ça un don particulier, justement, parce qu'il ne peut pas imposer son modèle, sa situation à lui. Il ne peut pas l'imposer à tous les croyants. Il ne peut pas l'imposer à tous les croyants. Donc, il y a une différence entre les êtres humains. C'est Dieu qui nous a créés tous, les hommes comme les femmes, mais il y a des différences entre nous, des différences de tempérament. Il y a des choses que moi je peux supporter, qu'un autre homme ne peut pas supporter. Une femme peut supporter ceci, qu'une autre femme ne peut pas supporter. Donc, certains ont un tempérament d'abord naturel, hein, mais aussi ça prend la grâce d'en haut. Il y a un tempérament naturel, on n'est pas enclin vers le sexe, on n'est pas poussé. Il y a des gens qui ne peuvent vivre que pour ça. D'autres, moins. Il y a déjà le côté naturel de la personne, mais il y a aussi une grâce spirituelle. Qui tient compte donc de cette disposition naturelle et qui rend certaines personnes capables de vivre le célibat sans beaucoup de lutte, sans beaucoup de souillure intérieure. Il y en a qui sont capables. Il y a peut-être des dispositions naturelles, mais il y a la grâce de Dieu qui vient aider, qui se sert de ces dispositions naturelles pour te permettre de résister à toutes les tentations, de te garder sans trop de lutte. Parce que la Bible dit, si tu brûles, non, arrête vite et marie-toi. Si tu brûles, ça veut dire que tu n'as pas cette grâce, tu n'as pas ce don. Ne force rien. Ne force rien. Dis, ah non, moi je veux Seigneur comme Paul, je veux comme telle autre personne. Et tu n'es pas fait comme ça. Ce n'est pas un don pour toi. Amen. Amen. Donc, Paul considère en conséquence qu'il ne faut pas sacrifier cette grâce. Il ne faut pas sacrifier cette grâce, ce don, pour se consacrer au service de Dieu. Si c'est un don de Dieu, profites-en. Tire-en profit pour te mettre au service de Dieu et des hommes. Pour te mettre au service de l'Évangile. Ça n'en prend des gens qui vont être plus disponibles qu'un père de famille, qu'un homme marié, pour voyager, aller donner l'Évangile jusqu'aux extrémités de la terre. Ça prend. Et Dieu choisit ces personnes et leur donne cette grâce particulière. Tu ne peux pas te lever en disant, « Eh, ils ont été capables, moi aussi je suis capable. Dieu va m'aider. Tu vas lutter, mon ami. Tu vas lutter. » Amen. Et je vais arrêter ici le verset 7 en disant que ce que Paul met en place comme règle à la base, c'est le mariage. Il le reconnaît. La règle, c'est le mariage. C'est ce que Dieu a voulu au départ. Mais il ne réfute pas qu'il y a une certaine excellence dans le célibat, qu'il y a une certaine honorabilité dans le célibat. Ceux qui sont capables d'y arriver, c'est honorable, parce qu'ils sont plus disposés à se mettre au service du Seigneur. Amen. Et nous pouvons lire un autre texte où Jésus confirme cela dans Matthieu chapitre 19, les versets 10. C'est quand justement Jésus est en train de faire des leçons sur le divorce. À partir du verset 10, après qu'il a parlé de la répudiation, sauf cause d'infidélité, quelqu'un qui épouse une autre femme, au verset 9, il dit qu'il commet un adultère. Les disciples réagissent et disent, mais Seigneur, si tel est le cas, si telle est la condition de l'homme à l'égard de la femme, ben, il n'est pas avantageux de se marier. Même ses disciples voyaient que c'était difficile. Ils voyaient ce qui s'est passé autour d'eux. Ils savaient combien de gens ont eu de la difficulté à maintenir leur vie de couple. Ils savaient combien de couples se sont divisés. Ils le voyaient, ils le vivaient. Ils disaient, ça va être difficile de respecter cette règle. Et il leur répondit, Jésus leur répondit, dit, tous ne comprennent pas cette parole, mais seulement ceux à qui cela est donné. Car il y a des eunuques qui le sont dès le ventre. Des gens qui se sont mis à part dès le ventre des dispositions naturelles. Hein? Dès le ventre de leur mère. Il y en a qui le sont devenus par les hommes. Et il y en a qui se sont rendus eux-mêmes eunuques à cause du royaume des cieux. Ils sentent qu'ils sont prêts à répondre à ça, se mettre à part pour que l'œuvre de Dieu aille de l'avant et celui qui peut comprenne cela. Donc Jésus-Christ le dit aussi. C'est un don. C'est un don, ce n'est pas donné à tout le monde. Tous ne comprennent pas cette parole et qu'on ne peut pas tous se lancer là-dedans en disant « Moi aussi je deviens un serviteur de Dieu et je mets une vie de célibat. » Entre parenthèses, je pense que c'est la plus grosse difficulté
qu'il y a dans l'Église catholique. Parce qu'on dit, tu veux être prêtre, tu veux servir le Seigneur, il faut que tu vives une vie de célibat. Mais ils sont allés là-bas, c'était imposé, mais ils l'ont eu dur. Et les conséquences aujourd'hui commencent à sortir au grand jour. Avec tous les dégâts que cela a causés, avec des enfants, avec bien des choses. Il y a un commentaire que je voulais lire ici, dans ma Bible, ici. Il dit que les disciples comprirent que le mariage revêtait un caractère indissoluble. Ils ont compris ça. Et que les conjoints devaient satisfaire à une norme morale très élevée, puisque le divorce n'était autorisé que dans les circonstances les plus extrêmes. Christ ne recommande pas le célibat ici. Lui non plus ne recommande pas le célibat, puisque seules certaines personnes ont la capacité de vivre dans cette condition. Il en fait au contraire une question de choix personnel, excepté pour ceux qui sont physiquement dans l'impossibilité de se marier, soit pour des raisons naturelles, l'impuissance, je ne sais pas quoi, ou à cause de la violence d'autres hommes. D'autres peuvent invoquer des raisons pratiques pour s'abstenir de se marier dans l'intérêt du royaume, et en aucun cas cependant, Christ ne suggère que le célibat serait supérieur au mariage. Même Paul l'a compris, c'est bien clair. Voilà donc la règle pour Paul aussi, c'est le mariage, même s'il y a une excellence, même s'il y a une honorabilité dans le célibat. Et Paul savait aussi, en écrivant ces choses, l'arrière-plan de tout juif, tout juif qui est né à cette époque, c'est que tout homme était obligé de se marier. C'est écrit dans leur livre. Tout homme était obligé de se marier. Le mariage était obligatoire, sauf pour ceux qui sont sexuellement impuissants. Il le savait en disant ces choses-là. Et la conséquence, évidemment, de tout ce qu'il vient de dire comme principe, d'abord sur le mariage et sur le célibat, il y a une conséquence qu'il évoque dans les versets 8 à 9. Il dit, « Donc, à ceux qui ne sont pas mariés et aux veuves, je dis qu'il leur est bon de rester comme moi, mais s'ils manquent de maîtrise d'eux-mêmes, ils se marient, car il vaut mieux se marier que de brûler. » En réalité, il tire trois conclusions. Il va donc tirer trois catégories de personnes qui sont touchées par ce principe. La première catégorie, c'est celle-là. À ceux qui ne sont pas mariés et aux veuves. Moi, je comprends, et là encore, il y a une discussion entre différents commentateurs. Moi, je comprends que à ceux qui ne sont pas mariés, j'inclus dedans les veufs et j'inclus dedans les personnes divorcées. Il y en avait. Ils ne sont pas mariés, ils sont divorcés. Donc, la première catégorie, c'est ceux qui ne sont pas mariés et les veuves. Il y a eu beaucoup de discussions là-dessus. Moi, je ne veux pas rentrer là-dedans. Tu ne sais pas qui va faire quoi. Ce n'est pas écrit noir sur blanc, donc tu ne peux pas discuter. Mais moi, pour moi, il y a les veuves qui sont là-dedans, mais il y a les divorcés qui sont là-dedans. Ils ne sont pas mariés. Première catégorie. La deuxième catégorie, c'est qu'on voit au verset 10, ceux qui sont mariés, ils sont croyants. À ceux qui sont mariés, ici, c'est les croyants de l'époque. La troisième catégorie que l'on va voir est au verset 12, c'est ce qu'il appelle aux autres. Les autres, c'est d'autres couples mixtes qu'il y avait dans l'église de Corinthe. Ça veut dire quoi? Des couples mixtes, c'est des couples composés d'un croyant et d'un non-croyant. Ça existait. Il donne aussi des consignes à cette catégorie de personnes. Et j'ajoute, moi, une quatrième catégorie que l'on voit beaucoup plus loin. C'est la catégorie de ceux qui ne sont jamais mariés, qu'il appelle des vierges. Ça se voit au verset plus bas, au verset 25, 28, c'est là qu'il en parle. Voici quatre catégories auxquelles Paul va s'adresser. Et à chacune, il a des consignes qu'il veut donner. La première catégorie, au verset 8, voici ce que Paul recommande donc au verset 8. À ceux qui ne sont pas mariés et aux veuves, je dis qu'il leur est bon de rester comme moi. C'est-à-dire de rester célibataire, de rester non marié. Tu as été divorcé, tu es veuf, c'est mieux que tu restes dans l'état où tu es, compte tenu notamment de tes mauvais temps à venir. Ceux qui sont mariés, ceux qui ont des enfants, vont vivre des difficultés. Verset 26 en parle. On peut aller le lire, verset 26. Il dit, voici donc ce que j'estime bon à cause des temps difficiles qui s'approchent. Le commentaire dit, une calamité imminente dont la nature n'est pas précisée. Paul anticipait une calamité imminente donc dont la nature n'est pas précisée. Et Paul anticipait peut-être les persécutions romaines. Et celles-ci commençaient environ 10 ans après la rédaction de cet épître. Donc il recommande de rester dans l'état où vous êtes, d'être ainsi. La persécution est suffisamment difficile à vivre pour une personne seule.
Les couples doivent faire face à un surcroît de problèmes et de souffrances, surtout lorsqu'ils ont des enfants. Ainsi, pourquoi il encourage donc de rester comme lui, de demeurer comme lui, c'est-à-dire non marié, à cause des perspectives difficiles, à cause peut-être même des temps de la fin. Je l'ai dit au début que, selon certains commentaires, les gens s'attendaient, même à l'époque de Paul, ils s'attendaient que Christ revienne de leur vivant. Alors, en vertu de toutes ces situations, donc, il est peut-être bon d'être plus disponible pour se concentrer sur le Seigneur, etc., et avoir une plus grande liberté pour travailler pour l'avancement du royaume et servir Dieu. Pourquoi il dit ça? Au verset 9, il dit, « Mais s'ils manquent de maîtrise d'eux-mêmes, ben, qu'ils se marient, car il vaut mieux se marier que de brûler. » Ce qu'il veut dire, c'est que c'est bon de rester dans cet état si on peut le faire sans péché. Mais si tu sens que le péché cogne à ta porte, marie-toi pour ne pas brûler. Marie-toi pour ne pas brûler. Mais si le péché risque de t'emporter, mais si le péché risque de résulter de ton état, marie-toi. C'est mieux de se marier. Pourquoi? Parce que c'est mieux de se marier que de brûler. Brûler, ce n'est pas brûler dans le feu de l'éternité, c'est brûler par le feu des convoitises intérieures. Des convoitises intérieures qui luttent constamment dans l'homme. Ça lutte. Il y a des luttes intérieures constamment dans l'homme, entre ce que la conscience te dit, ce que l'engagement que tu as pris de vivre le célibat, et ce que tu ressens physiquement dans ton corps. Au lieu de lutter ces choses, marie-toi. Voilà les conseils que Paul donne à cette première catégorie. Là, il vient, si je peux ainsi dire, à partir de ces versets donc 9, jusqu'au verset 9, il vient de poser ou de résoudre la question fondamentale concernant le lien conjugal. Il vient de mettre la table en disant le lien conjugal, ça vient d'être résolu. À la base, c'est le mariage. Dieu a voulu le mariage. Mais avec certains dons, avec certains appels que certaines personnes ont, ils peuvent vivre le célibat. Mais quand Paul dit cela, Paul sait à son époque, comme à l'époque de Moïse, comme de tout temps, comme aujourd'hui, peut-être même aujourd'hui plus que jamais, je ne peux pas le dire, mais parce que je n'étais pas là du temps de Moïse, je n'étais pas là du temps de Paul. Mais il sait que le cœur de l'homme est mauvais. Le cœur de l'homme est tortueux. Le cœur de l'homme est dur. Un cœur dur. Paul le savait. Sachant cela, il comprend que c'est difficile. Il n'est pas le seul qui le comprend. Nous venons de lire un passage où il dit, ben, si c'est ça ce que tu nous recommandes de faire, il vaut mieux de ne pas se marier parce que ça va être difficile. C'est difficile de mettre ça en application avec tout ce que nous voyons, avec le milieu dans lequel on vivait, la légèreté des mœurs aujourd'hui. Même quand vous n'avez envie de rien, vous êtes devant votre télévision à écouter des informations, on vous bombarde tout le temps des images, des nudités, des images de ci, des images de ça. Nous vivons dans un milieu où on a constamment besoin de la grâce de Dieu pour ne pas tomber. Tu ne peux pas passer ton temps à zapper. Fais une publicité, tchac, ça passe. Quand ça va finir, tu reviens. Mais pas longtemps après, il va y avoir autre chose. Ou il va y avoir des propos dans les journaux télévisés. On parle de tout et de rien, sans tenir compte que c'est une heure où des enfants sont encore debout. Nous vivons des temps difficiles. Tellement de tentations, tellement de choses qui attirent, tellement de choses qui nous amènent à nous éloigner de ce que Dieu veut. Le cœur de l'homme est aussi dur, il est tortueux, etc. Il est exposé aussi. Et donc, Paul comprenait que les mariages auraient la difficulté de toujours résister. Il a compris. Les apôtres l'ont compris. Lui aussi a compris que les mariages, dans les circonstances dans lesquelles il vivait, nous, on n'a pas besoin qu'on nous fasse ce schéma aujourd'hui. Si nos parents ont résisté, ils vivaient un temps où c'était peut-être encore plus facile. Mais aujourd'hui, avec tout ce que le monde offre, avec toutes les influences que nous entendons, avec tout ce que les gens voient, ça prend vraiment une grâce spéciale de Dieu pour tenir, maintenir son mariage jusqu'au bout. Ça prend la grâce de Dieu. Et Paul comprenait que ça allait être difficile. Je l'ai dit, c'est déjà arrivé à l'époque de Moïse. Moïse n'a pas fait des modifications à la loi à l'époque pour permettre que des gens donnent de l'aide de divorce de gaieté de cœur. Moïse était le berger. Il était le pasteur de ce peuple. Il a été confronté à des choses difficiles. Il ne savait plus où mettre la tête. Est-ce que Dieu était avec lui? Dieu était avec lui. Dieu était avec lui. Mais il a vécu des choses difficiles au point où il a dû céder. Quand Jésus en parle dans les évangiles, il a juste dit c'est à cause de la dureté de votre cœur. Auparavant, les choses n'étaient pas comme cela. Est-ce qu'il a condamné Moïse pour ce qu'il a fait? Est-ce que Dieu a changé d'avis par rapport à son principe premier que l'homme se marierait et resterait jusqu'à la fin des jours?
Il n'a pas changé d'avis.
Moïse a légiféré. Moïse a cédé.
Il est dit sous la pression. Il est allé à l'encontre que personne ne sépare ce que Dieu a uni. Dans Genèse, il le savait. Et il l'a fait. Et Jésus en parle. Il dit, c'est à cause de la dureté de votre cœur. Moïse a agi avec un cœur de berger. Moïse a agi avec un cœur de pasteur. Et c'est là que je vais faire une petite différence. Entre ce que j'ai appelé au début un théologien de chambre qui édicte des lois, sans savoir comment l'application va être difficile. Mais celui qui va appliquer ces lois sur le terrain, c'est le pasteur. C'est Moïse qui devait appliquer ces lois sur le terrain. Il était confronté à des difficultés énormes. Il ne savait pas comment s'en tenir. Il a cédé. Il l'a fait. Et je ne vois nulle part où Jésus a dit, ce n'est pas compte de ce qu'il a fait, Moïse était dans le champ. Jésus ne l'a pas dit. Ça va nous amener tranquillement à comprendre ce qu'est le message central de la parole de Dieu. Jésus est venu apporter. C'est un message de grâce. C'est un message de miséricorde. Et il a montré l'exemple sur plus d'un plan. Des gens qui étaient hors la loi. Ce bandit qui était sur la croix avec lui. Toute une vie en dehors de la volonté de Dieu. Quand il demande pardon, en un instant ça change et il est au ciel. Il est au paradis. La femme adultère qui était pourchassée par des gens qui devaient le lapider selon la loi. Jésus a dit simplement, celui qui n'a pas péché, lui jette la première pierre. Un à un. Il n'a même pas eu le courage de lui dire, mais la loi qu'il est dit, est venue apporter la grâce. Ce n'est pas une grâce que l'on se mérite chaque fois que l'on a péché et qu'on dit, de toute façon, la grâce est là. Mais le cœur de Dieu, c'est un cœur de miséricorde et de compassion avant tout. Et nous voulons, et nous devons arriver à avoir ce cœur de miséricorde et ce cœur de compassion. Pas pour ne pas être permissif, je ne dis pas ça. Un cœur de miséricorde, de regarder avec les yeux du Seigneur. Il voyait des gens souffrir, s'égarer, mais avec un regard de compassion. Voici comment le premier regard que nous devons jeter sur les gens, c'est un regard de compassion. C'est tout le message, et c'est le message central de l'Évangile. Ce n'est pas la loi, ce n'est pas les versets. C'est pas ça. Il y a des gens, entre parenthèses, qui se sont servis de ce que je viens de dire pour créer maintenant une théorie. Nous vivons à l'époque de la grâce, tout est permis, tout est... C'est pas ça. Ne détournons rien. Ce n'est pas ça. Il y a la place au châtiment. Qui doit donner ce châtiment? C'est lui, c'est pas nous. C'est lui qui jugera. C'est lui qui donnera les coups de fouet lorsqu'il faut le donner. Donc, la question fondamentale de la formation du lien conjugal est résolue. Et Paul, comme je dis, savait que le cœur de l'homme est dur. Il comprenait que ça allait être difficile pour ces mariages, d'où il aborde une autre question. Il n'est plus sur le principe de l'indissolubilité du mariage. À partir du verset 10 et 11, il ouvre un autre chapitre, la question du maintien ou de la rupture de ce lien. Jésus aussi l'a fait par la suite. Quand Jésus est venu, il a introduit la notion « sauf en cas d'adultère ». Ce qui n'était pas là au début, sauf en cas d'adultère. Donc, il aborde la question du maintien ou de la rupture de ce lien. Et il distingue deux cas là-dessus. D'abord, les personnes mariées, nous disons que c'est des personnes mariées qui sont dans l'église de Corinthe. Donc, des personnes croyantes. Ça, s'il aborde ça au verset 10 et 11 que nous allons lire tantôt. Et puis, la deuxième catégorie qu'il va aborder, c'est des mariés dans la même église, mais dont un seul est croyant. Ou pas dans l'église. En tout cas, une des personnes fréquentait l'église. Il aborde ça et ça part du verset 12 au verset 16. Voyons ce qu'il dit au verset 10 et 11. « À ceux qui sont mariés, j'ordonne, non pas moi, mais le Seigneur, que la femme ne se sépare point de son mari. Si elle est séparée, qu'elle demeure sans se marier ou qu'elle se réconcilie avec son mari. Et que le mari ne répudie point sa femme. » Là, il parle des personnes mariées. J'ai dit qu'ils sont croyantes, et en parlant de croyantes, moi j'ouvre cette autre parenthèse par rapport au message que j'ai apporté il y a quelque temps. Nous venons tous à l'église, nous sommes tous croyants. En tout cas, nous le disons. Mais c'est au fruit que nous portons. Et l'on va dire, ah, oui, lui il porte des fruits, il est chrétien, lui il ne porte pas. Et encore là, nous pouvons nous tromper. Il y a des choses enfouies, des choses cachées que nous ne voyons pas, mais que Dieu voit. Donc, qui connaît qui est croyant, chrétien, né de nouveau, qui ne l'est pas, ce n'est ni le pasteur, ni aucun membre de l'Église. Nous pouvons porter un avis pour dire, en tout cas, avec de tels fruits, je dirais bien que cette personne n'est pas croyante. Oui, un chrétien né de nouveau doit porter des fruits. Mais au-delà de ça, il y a des choses intérieures enfouies, à l'intérieur, cachées, que nous ne voyons pas. Donc, nous pouvons nous tromper en portant ce jugement. Alors, il dit, j'ordonne.
à cette catégorie de mariés croyants, j'ordonne. Il dit, non pas moi, je vous parle de la part du Seigneur. C'est un ordre du Seigneur que je vous transmets. Cet ordre du Seigneur n'est pas discutable. Je vous le livre tel quel. C'est ce qu'il dit. J'ordonne, non pas moi, mais le Seigneur. Il dit que la femme ne se sépare point de son mari, point. Il ne dit pas dans quelles circonstances. Il ne dit pas qu'il ne se sépare pas, sauf en cas de divorce. Il ne le dit pas. Sans d'adultère, il ne le dit pas. Sauf, il ne se sépare point de son mari, mais il reconnaît, il dit, si elle est séparée, ça veut dire qu'il y a déjà des cas comme ça dans l'Église. On se trouve devant des cas déjà qui sont... Qu'est-ce qu'on fait de ces gens? Il est obligé de légiférer, pas de légiférer, mais d'expliquer quelle attitude il faut adopter. Donc ici, d'abord, il dit, ce que je vous transmets, c'est un ordre du Seigneur. Il n'est pas discutable parce que ça ne vient pas de moi. Ce que Dieu veut, c'est que la femme ne se sépare point de son mari. Donc, je n'ai même pas besoin de le justifier, dit-il. Je vous le livre tel que le Seigneur le veut. Je n'ai pas besoin de donner des raisons pour que ça se fasse comme ci ou que ça se fasse comme cela. Mais par contre, ce que Paul ne sait pas ou n'évoque pas ici, c'est ce que le Seigneur Jésus lui-même a dit. Quand il dit que l'homme ne se sépare pas, sauf en cas d'infidélité, d'adultère, etc., Paul ne le sait pas parce que sans doute, l'évangile. En fait, lui, s'est basé sur quoi, Paul, pour parler de ça? Sur ce qui a été véhiculé, je dirais, de bouche à oreille. Les évangiles n'existaient pas, ce n'était pas encore écrit, ce n'était pas encore à sa portée au moment où il écrivait cette épître. Donc, il se base sur ce qu'il a entendu. Et ce qu'il a entendu peut être tiré de plusieurs passages de la Bible. Et ici, l'ordre qu'il donne est confirmé dans les évangiles aujourd'hui. Lisons ensemble Matthieu chapitre 5, le verset 32 par exemple. Jésus, au 31, c'est Jésus qui est en train de parler, il dit, « Il a été dit que celui qui répudie sa femme lui donne une lettre de divorce. Mais moi, je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, l'expose à devenir adultère, et que celui qui épouse une femme répudiée commet un adultère. » Voici un premier passage. Pour vous dire que quand on lit la Bible, il ne faut pas la lire et prendre ce verset et dire, « Je m'arrête là. » Les mêmes textes ont été écrits par d'autres évangéliste. On voit déjà ici qu'il y a une exception que Jésus lui-même ajoute par rapport à ce qui était au départ. Il ajoute l'exception de le cas d'adultère. Il n'était pas là au départ. Il ajoute une première condition. Il parle d'adultère ou d'infidélité de toutes sortes de péchés. C'est toutes sortes d'infidélités liées au péché sexuel. Et c'est là que j'ai dit, même les pensées rentrent là-dedans. Entre là-dedans. Combien de gens ne sont pas tombés dans ce piège? Mais on y reviendra parce que je vous apporterai la semaine prochaine la compréhension de ce mot adultère. Il y a des gens qui ont écrit et qui ont fouillé à partir des textes originaux pour voir les mots, les traductions que nous avons. Ça a tordu pas mal de choses. Alors, pour bien comprendre, parfois, il faut revenir en arrière. Aller voir dans les textes, dans la langue d'origine. Ça a été écrit dans l'origine. On comprend mieux la signification qu'il faudrait donner à ces choses. On voit donc cette première exception qui s'ajoute et on ne la trouve que dans Matthieu. Matthieu 5, 32, mais il y avait aussi un autre texte que je voulais lire dans Matthieu 19, le verset 9 qui dit ceci. « Mais je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité, et qui en épouse une autre, commet un adultère. » Jusque-là, ça va dans le même sens dans l'évangile selon Matthieu. Lisons maintenant dans Marc. Chapitre 10. Marc chapitre 10, le verset 11. Lorsqu'ils furent dans la maison, les disciples l'interrogèrent encore là-dessus parce qu'ils n'avaient pas compris tout ce que les explications Jésus donnait concernant l'histoire de l'aide de divorce de Moïse. Ils n'avaient pas compris. Ils rentrent encore dans la maison, ils continuent la discussion pour approfondir. Et Jésus leur dit, celui qui répudie sa femme et qui en épouse une autre commet un adultère à son égard. La clause d'exception n'y est plus. Marc 10, 11. Luc 16. Qui a bien compris? Qui n'a pas bien compris? Matthieu a bien noté? Ou c'est... On ne peut pas prêter des intentions à Matthieu en disant « Matthieu a dû rajouter ça ». Mais je vous montrerai des commentaires, des hypothèses qui sont émises là-dessus. Luc 16, 18. Ça reprend quasiment la même chose que dans Marc qu'on vient de lire. « Quiconque répudie sa femme et en épouse une autre commet un adultère et quiconque épouse une femme répudiée par son mari commet un adultère. » Purement et simplement. Donc là-dedans, l'exception que Jésus... énonce dans l'évangile selon Matthieu, n'y est plus. Et là, il dit dans ces deux parties, répudier ou quitter et épouser un autre, c'est ça qui est adultère, point, c'est tout. Et ceci vient donc en opposition, évidemment, à une pratique qui était courante à cette époque où les rabbins permettaient le divorce pour n'importe quelle raison. La femme a toussé ou la femme ne s'est pas bien habillée. On donnait des... C'est vraiment l'encontre. On explique les raisons, etc., pour lesquelles on donne. Alors, dans ces deux textes, on vient de lire les deux derniers, dans Marc et dans Luc, ainsi que dans celui de Paul, au verset 10, il n'y a aucune allusion à la clause d'exception que Jésus a introduite dans Matthieu 19, verset 9. Il n'y a aucune clause. Ça va nous permettre d'avancer, et on tend vers la fin de cette première partie. Alors, les explications possibles sont les suivantes. Pourquoi dans l'un, etc. C'est que Paul, quand il a écrit, je viens de dire, il se basait certainement sur une de bouche à oreille, sur une sorte de tradition orale. C'est des gens qui lui ont dit, il n'était pas avec Jésus, lui, en fait, pendant avec les autres apôtres. Donc, on lui a rapporté ce que Jésus disait, il retient et il rapporte la même chose, etc. Et il y a d'autres commentaires, justement, et nous savons que si Paul a écrit, c'est parce qu'il n'avait pas accès aux évangiles, ce n'était pas encore écrit au moment où il rédigeait son épître. D'autres commentaires disent, si dans Luc et dans Marc, on n'a pas mis la clause d'adultère, là, en cas d'adultère, c'est parce qu'ils considèrent que ça va de soi. C'est très discutable. C'est très discutable, ça va de soi. Pourquoi ça va de soi? Et là, je parlais avec un serviteur de Dieu, il dit, c'est dommage que la Bible n'ait pas été claire sur toute la ligne, sur tous les sujets. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a tellement de discussions qui amènent des divisions, qui amènent des sectes, qui amènent des interprétations dans tous les sens. Mais il y a l'Esprit de Dieu qui continue à travailler, qui permet aux gens de s'asseoir et de partager. Dans les conciles, dans les grandes organisations, si on est arrivé à créer la doctrine, parce que les gens ont discuté avec l'éclairage du Saint-Esprit, ils sont arrivés à sortir, voici ce en quoi nous croyons. Nous nous mettons d'accord là-dessus. D'autres ne sont pas d'accord, ils lisent les mêmes textes. Ils lisent les mêmes textes. Donc, d'autres disent, c'est omis, mais c'est parce que ça va de soi. Parce qu'un pareil crime, l'adultère était considéré comme un crime, ne devait pas être possible chez les croyants. Ça va de soi que l'adultère devait être une clause d'exception. Parce que ça ne devait pas arriver chez les croyants. Parce qu'eux, ils ne sont pas faits de chair. Parce qu'eux, ils ne sont pas faits avec les mêmes sentiments que les humains. Ça ne va pas de soi, c'est discutable. C'est discutable. Il dit que ça ne devait pas être possible chez les croyants parce que c'était puni par la mort. Et donc, ça devait faire peur aux gens de le faire. Oui, mais voyez, pensez-vous, quand les gens commettent un péché, ils savent ce qu'ils attendent, ils ne réalisent pas. Quand tu vas voler une banque, quand tu vas voler dans une maison, tu ne penses pas que ça va se passer comme ça. Tu peux sortir de là avec une balle dans la tête, tu es mort. Mais quand tu y vas, tu ne penses pas à tout ça. La même chose. Donc, pourtant, il y a eu des cas donc, d'adultère à cette époque. Alors, Paul évoque le cas de la femme en premier, ça c'est des commentaires que j'aimais, dans le verset 10, il dit « J'ordonne non pas moi, mais le Seigneur, que la femme ne se sépare point de son mari. » Il commence par la femme parce que ce n'est pas seulement dans cette époque. Je parlais hier avec une sœur, je vois combien les femmes ont toujours souffert à travers le temps, à travers l'histoire. C'est des maillons faibles de la chaîne, ils ont tout le temps été écrasés, etc. Donc la femme, quand elle devait, elle n'était pas contente, elle n'était pas heureuse dans l'union, elle se séparait, alors que dans l'autre sens, on dit que le mari, lui, il répudie. La femme venait vivre sous le toit du mari. Et elle, si elle n'était pas d'accord parce qu'elle souffrait de cette relation, elle se séparait, elle partait. C'est parce que c'est une personne qui vivait des choses difficiles. Et souvent, d'ailleurs, les velléités, les intentions de séparation vont vouloir venir beaucoup plus de la femme parce qu'elle se sent maltraitée dans le couple. Elle souffre beaucoup. C'est d'elle que vient. C'est pour ça qu'il commence par la femme. Si elle se sépare, parce que c'est elle qui souffre beaucoup, c'est elle qui est souvent maltraitée, elle se sépare versus la répudiation, le renvoi. Écrivez une lettre et vous renvoyez la femme. L'homme était autoritaire, l'homme avait une place au-dessus, etc. Et c'est ça. Et nous voyons, je ne sais pas dans votre Bible, comme dans la mienne, si la deuxième partie, le verset 11, est dans une parenthèse. C'est une parenthèse quasiment que Paul ouvre. Si elle est séparée, elle demeure sans se marier ou qu'elle se réconcilie avec son mari. Paul ouvre cette parenthèse également, malgré la défense du Seigneur. Malgré la défense du Seigneur qui dit que la femme ou la femme croyante quitte son mari, qu'elle ne doit pas se remarier. C'est la défense du Seigneur. Mais il ouvre quand même cette parenthèse. Il sait qu'elle ne peut pas se remarier, mais il l'ouvre parce que c'est déjà arrivé. Tu peux fermer les yeux à ça. Tu continues à légiférer sans tenir compte des cas que tu as devant toi. Il est le pasteur de l'église. On lui amène des questions. Pasteur, regarde dans l'église. Nous avons des femmes qui se sont séparées. Tu ne peux pas ne pas en parler en disant, ce n'est pas supposé arriver. C'est déjà arrivé. Qu'est-ce que tu fais avec ça? Il doit en parler. Il ouvre cette parenthèse donc pour parler de la femme croyante qui quitte son mari. Il dit qu'il ne doit pas se remarier ou tout simplement elle doit se réconcilier. Si Paul le prévoit, c'est que sans doute la chose est déjà arrivée. Il a eu vent des cas qui se produisent dans l'Église et d'où les questions lui ont été posées. Je veux dire ici, il y a des réalités dans l'Église du Seigneur. Et le Seigneur les connaît, ces réalités. Il l'a vécu. Quand il est venu sur terre, il l'a vécu. Beaucoup de ces cas qui étaient condamnables, il a manifesté la compassion. Et celui qui n'a pas péché jette la première. Quel message il passe aux gens? Pas d'accepter tout, bien aimé. C'est pas ce que je dis. Ne me faites pas dire ce que je ne dis pas. Il y a un accompagnement à faire. Si c'est possible de réconcilier ces personnes, l'Église va travailler pour la réconciliation. Va s'asseoir, frère. Dieu n'aime pas ça. Prenez le temps de prier. Prenez le temps de réfléchir avant de vous séparer. Prenez le temps. Nous nous mettons avec vous. Nous voulons vous accompagner. Nous voulons vous soutenir. Nous voulons prier avec vous. Nous voulons que vous puissiez reconsidérer votre décision. Regardez ce que Dieu dit dans sa parole. Sachez que nous aurons des comptes à rendre. Sachez que vous êtes responsable des décisions que vous allez prendre. Voilà le rôle de l'Église, accompagner les gens. C'est une parenthèse que Paul ouvre, mais comme s'il ouvre une porte. Et ce que Paul veut, en fait, dans le verset 11, il dit, si elle est séparée, qu'elle demeure sans se marier ou qu'elle se réconcilie avec son mari. Il ouvre une porte, dit, écoutez, il y a encore des chances. Ce que Paul veut simplement, en évoquant ce problème, il veut empêcher au premier mal. La séparation est déjà un mal. C'est pour ça que Dieu nous a appelés à nous unir. Il y a un premier mal qui vient d'avoir lieu. Il ne veut pas qu'il s'ajoute un deuxième plus grave, celui du remariage. Voilà pourquoi il ouvre cette parenthèse. Il dit, mais qu'elle demeure sans se marier ou qu'elle se réconcilie avec son mari. Il dit, le remariage, etc., qui était considéré comme adultère. Donc, lui recommande la réconciliation. Là où c'est possible, évidemment, qu'il y ait réconciliation. En créant Adam et Ève, il dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Mais nous voulons renvoyer cet homme à la solitude, avec toutes les difficultés que cela impose. Dieu a créé Ève pour combler la solitude d'Adam. C'est le désir du cœur de Dieu. Personne ne lui a demandé. Ce n'est pas Adam qui a dit, mais Dieu, mais est-ce que tu as vu ma condition? Mais Dieu savait qu'il n'était pas bon pour Adam de vivre ce temps de solitude. Le premier sentiment qu'Adam a éprouvé, où il pouvait éprouver en étant dans le jardin d'Éden, où il avait tout pour être heureux, c'est la première chose qu'il pouvait supporter difficilement, c'est la solitude. Et Dieu le savait, Dieu lui a créé une aide. Amen.